Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. La Grande Étude est un texte qui fait partie du corpus confucéen et en est une des bases. Ce grand classique, pourtant très court, a donné lieu à des commentaires inépuisables dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi Han Cheng, titulaire de la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine, a organisé à la fin du mois de juin 2011 un grand colloque international sur les lectures et usages de la Grande Étude. Ce colloque est aujourd'hui publié par le Collège de France et l'Institut des hautes études chinoises. Voici comment Han Cheng décrit la Grande Étude dans son introduction. Il s'agit d'un curieux objet qui n'était à l'origine qu'un chapitre d'un imposant compendium sur les rites, le Liji, compilé peu après la fondation de l'Empire Han au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais dont le caractère autosuffisant et incantatoire tendrait à le rapprocher d'autres textes de la période préimpériale. Le succès de la Grande Étude s'explique certes par sa concision, mais peut tout aussi bien constituer un paradoxe du fait des formulations répétitives et des constructions en sorites du type « si A alors B, si B alors C », etc. de la partie introductive. Dès lors que l'on sait où s'arrêter, on connaît la stabilité. Dès lors que l'on connaît la stabilité, on sait comment rester calme. Dès lors que l'on reste calme, on parvient à la sérénité. Une telle construction, caractéristique de la période précédant et suivant immédiatement l'instauration de l'ère impériale et de toute évidence de nature mnémotechnique, contribue à créer un effet de continuité et de succession ordonnée. Le début du texte décrit la voie de la Grande Étude comme une progression graduelle par étapes du développement personnel du souverain qui se diffuse par cercles concentriques à l'échelle de la famille, puis du pays et enfin du monde, établissant ainsi un rapport de continuité entre la dimension morale de la gouvernance de soi et la dimension politique de la gouvernance du monde, continuité qui est resté le paradigme central de ce texte. Le 11 décembre 2008, Han Cheng ouvrait les travaux de sa chaire, Histoire intellectuelle de la Chine, par une leçon inaugurale au titre qui sonnait comme une question ironique « La Chine pense-t-elle ?» Vous pouvez retrouver cette leçon sur le site internet du Collège de France et elle est publiée dans la petite collection bleue des leçons du Collège chez Fayard. Han Cheng a consacré un cycle de 6 années de cours à Maître Kong, connu sous son nom latin de Confucius tel qu'il fut traduit par les pères jésuites. Figure majeure de la Sapientia Sinica, Confucius fut successivement célébré, honni, revisité et finalement ressuscité selon l'expression d'Han Cheng. Elle s'est intéressée à son retour en force dans l'idéologie de la Chine du XXIe siècle, à son utilisation par les intellectuels américains et aux travaux conduits sur l'histoire du fameux confucianisme, terme inconnu en chinois. Elle a également montré comment son nom apparaît aujourd'hui comme la figure cardinale d'un humanisme universel à la chinoise. Puis, dans son cours de l'année 2012-2013, Han Cheng a mis en évidence la manière dont le nom de Confucius était un mythe et avait été construit pour désigner une concrétion, un assemblage de textes venus d'horizons divers, fabriqués un siècle avant notre ère sous la dynastie des Han. L'an dernier, elle a ouvert un nouveau cycle où elle aborde sous un nouvel angle la question de l'universalisme chinois, question centrale en effet, puisqu'elle ébranle l'universalité de notre propre universalisme. Cette année, dans les 5 leçons que nous avons suivies, Han Cheng s'est interrogé sur le ritualisme chinois. Si les gestes rituels peuvent paraître étranges pour un regard occidental superficiel, le ritualisme chinois n'est pas une religion, au sens étroit du mot, comme l'avaient bien vu dès le XVIIe siècle ces extraordinaires anthropologues qu'étaient les pères jésuites. Mais, parce qu'il est soutenu par ce qu'Han Cheng nomme le continuisme anthropocosmique de la culture ritualiste chinoise, c'est-à-dire par la croyance dans la continuité entre le cosmos et le monde des humains, ce ritualisme est porteur d'universalité. Dans ce contexte, la question de la piété filiale est centrale. Sans doute cette vertu est-elle célébrée partout dans le monde, non seulement dans le commandement biblique « Honore ton père et ta mère », mais aussi avec l'histoire étrange de la charité romaine où une fille vient donner le sein à son père, emprisonnée et condamnée à mourir de faim. En Chine, cependant, la piété filiale prend une dimension presque métaphysique. Elle devient l'équivalent du Tao, de la voix. Toute une littérature célèbre cette vertu cardinale jusque dans ses pathologies et Han Cheng avait évoqué le volume le plus célèbre sur la question, le recueil des 24 exemplaires de piété filiale qu'on trouve décliné encore aujourd'hui sous toutes les formes jusqu'en bande dessinée pour les enfants. Ce matin, Han Cheng montre comment la piété filiale vient aussi structurer l'espace politique. Écoutez.
Alors, nous sommes partis cette année de la constatation qui n'échappe à personne que dans le monde actuel, la Chine occupe une place massive et qu'elle y pèse de tout son poids, qu'on tend à mesurer en termes exclusivement économiques et géopolitiques. Actuellement, la situation de la Chine inquiète beaucoup sur les marchés financiers. Donc, quand on dit couramment, hein, quand la Chine éternue, le monde s'enrhume. Hein. Alors, il m'a semblé pour ma part nécessaire de nous efforcer, d'une part, d'aller au-delà des chiffres et des purs rapports de force dont on nous abreuve à longueur de journée, et d'ouvrir la réflexion critique sur la profondeur de la longue durée. Il me semble également important, d'autre part, de ne pas suivre aveuglément cette tendance médiatique à parler de la Chine, prise comme une entité isolée et autosuffisante. Il me semble qu'il nous faut la replacer dans un espace de circulation plus large, où elle entre nécessairement en interaction avec d'autres réalités qu'elle, où elle est confrontée à d'autres qu'elle, où elle bute sur ses limites, où elle est donc, par la force des choses, renvoyée à des interrogations sur elle-même. Mais bien évidemment, avant de nous lancer dans le vif de ce sujet extrêmement touffu et de commencer à en explorer les complexités, il m'a paru important de rappeler ce qui nous a amené à soulever une telle question. Et c'est un travail d'autant plus important que cette prétention chinoise à l'universalité est en train de refaire surface en Chine, avec la montée en puissance de la Chine, comme je viens de le dire, dans le contexte de la mondialisation actuelle, et que cette question de l'universalité chinoise est en train de faire l'objet de débats extrêmement vifs en Chine même depuis quelques années. Alors, ce que nous avons essayé de faire cette année a été de partir du contexte éminemment ritualisé de la Chine ancienne et pré-impériale pour examiner la manière dont s'est constituée une certaine idée chinoise de l'universalité. Alors, ce faisant, nous avons vu que ce qui semble avoir été premier, ou si vous préférez, fondateur, dans la conception chinoise du monde, a été la notion d'un continuum qui traverse de part en part et réunit en un seul tout le cosmos, c'est-à-dire le ciel-terre, et le monde humain. Ce qu'en chinois on appelle justement cette triade cosmique du Tiandiren, c'est-à-dire donc ciel, terre, homme. Et donc, à l'intérieur de ce tout, ou comme faisant partie de ce tout, le monde humain est lui-même conçu comme un continuum, à savoir celui qui relie entre elles les générations humaines. Donc ce continuum est assuré par le culte ancestral et la piété filiale, avec tout ce qu'ils impliquent et que nous avons en quelque sorte passé en revue, donc les rites funéraires, les rites de deuil, les sacrifices aux ancêtres et aux parents défunts, les obligations vis-à-vis des parents, aussi bien de leur vivant qu'après leur mort. Et nous avons également vu un exemple la dernière fois de l'obligation rituelle de vengeance, donc qui est une obligation du fils pieux envers donc le père ou la mère dans un cas où le père et la mère sont assassinés. Donc obligation rituelle de vengeance. Alors, pour reprendre le titre d'un ouvrage en chinois que nous devons à Madame Lu Miaofen et qui est paru donc en 2011, Lu Miaofen, qui est une collègue de l'Academia Sinica de Taïwan, elle a intitulé donc un livre qu'elle a consacré à la culture de la piété filiale. Elle l'a intitulé donc Xiao Zhi Tianxia, c'est-à-dire donc la piété filiale gouverne le monde sous le ciel, qui est un titre tout à fait approprié donc dans le contexte de ce que nous faisons actuellement. Alors, nous avons vu comment le premier empire Han, dans les deux siècles avant et les deux siècles après le tournant de l'ère chrétienne, donc nous avons vu comment ce premier empire s'est appuyé sur, on pourrait dire, toute une batterie de sources textuelles canoniques, à commencer par les traités ritualistes et par ce livre de la piété filiale, le Xiaojing, pour mettre en rapport analogique donc piété filiale, Xiao, et loyauté, Zhong. Donc la piété filiale met en relation donc le fils pieux avec son père, et ce modèle de relation donc informe la relation donc politique entre le ministre ou le sujet et son prince. Alors c'est ainsi que nous avons vu que l'ordre politique s'est trouvé enraciné en quelque sorte dans l'ordre naturel de la filiation. Nous avons insisté un petit peu sur la récurrence de cette notion organique de l'enracinement, hein, du pen, la racine. Cette analogie entre piété filiale et loyauté a donc fait de l'ordre politique la simple extension de l'ordre familial. Et donc nous avons vu la dernière fois que ce processus d'extension se fait par étapes, ou si l'on préfère, par cercles concentriques qui prennent tous leur origine dans la personne Shen de celui qui dirige, donc que ce soit le père ou le prince, donc. Et à partir de là, nous avons des cercles concentriques qui s'élargissent à l'échelle de la famille Tia, la famille au sens de lignage, puis à l'échelle du pays, Kuo. Nous avons vu que certaines sources non confucéennes, comme le Laozi, autrement connu comme le Tao Te Ching, c'est-à-dire le livre de la voie et de sa vertu ou de sa puissance, donc le Laozi intercale donc plan du Xiang, c'est-à-dire le voisinage ou le village. Donc ensuite nous arrivons à l'échelle du Kuo, c'est-à-dire à l'échelle du pays, et enfin donc l'échelle au-delà de laquelle on ne peut pas aller, donc l'échelle du monde sous le ciel, le Tianxia. Donc les sources confucéennes et non confucéennes d'ailleurs de la fin de l'Antiquité et du début de l'ère impériale que nous avons citées, que ce soit donc le Mencius, en chinois le Mengzi, les entretiens de Confucius, en chinois le Yu, ou le traité des rites, le Li Ji, et en particulier donc ces deux chapitres, la grande étude, le Ta Xue, et le milieu invariable, le Zhongyong, qui ont été donc ces deux chapitres qui ont été donc mis en exergue au XIIe siècle pour faire partie d'un nouveau corpus canonique des quatre livres. Donc toutes ces sources donnent la représentation d'un développement organique continu à partir d'un centre qui est donc la culture morale de soi. Ici, bon, vous avez le début de la grande étude où vous retrouvez ces mêmes éléments, donc Shen, Jia, Guo, Tianxia, etc. Donc, vous avez développement continu à partir donc de ce centre qui est la culture morale de soi, donc en chinois le Xiaoshen, et l'extension de cette culture morale à l'échelle de la gouvernance du corps sociopolitique qu'on appelle donc le Zhiguo, donc en chinois. Alors cette continuité est représentée sous forme à la fois notionnelle et graphique dans la corrélation que nous avons rappelée la dernière fois entre d'une part Jun, le prince, et le Junzi, c'est-à-dire donc l'homme de bien selon l'idéal confucéen. Au fond, l'idéal confucéen serait de confondre dans la même personne donc le prince et l'homme de bien. Junzi signifiant donc le fils du prince, autrement dit donc une personne noble ici au sens moral. Et nous avions rappelé également la corrélation qui se traduit donc en termes graphiques entre Zheng, donc le fait de gouverner, et donc Zheng ici, qui est la composante principale mot gouverner en chinois, donc qui se prononce de la même façon en chinois moderne, et qui veut dire donc la droiture. Autrement dit, nous avions dans cette citation des entretiens de Confucius l'idée que gouverner, c'est tout simplement une affaire de droiture personnelle, donc incarnée par le prince. Il suffit que le prince donne l'exemple de la droiture pour que le pays, et voire le monde entier, soit en ordre. Donc, dans d'autres termes qui sont empruntés, eux, au dernier chapitre du Zhuangzi, le chapitre 33, le Zhuangzi qui également est réputé pour ne pas être une source confucéenne, qu'on assimile en général au courant taoïste. Donc, le Zhuangzi, dans son dernier chapitre, intitulé de manière très intéressante Tianxia, c'est-à-dire donc tout ce qui est sous le ciel, dans ce chapitre, vous trouvez justement cette expression de Neisheng Wai Wang, c'est-à-dire donc la sagesse intérieure qui correspondrait donc à la culture morale de soi, et le Wai Wang, c'est-à-dire la royauté extérieure, autrement dit, au fond, l'extension ou l'extériorisation de cette culture morale du prince qui se traduit donc à l'échelle de la famille, du pays et du monde entier. Donc, à propos de la continuité entre ce Nation et Wai Wang, donc entre cette sagesse intérieure ou, si vous voulez, donc l'éthique individuelle du prince et la royauté extérieure, c'est-à-dire son extension politique, Joël Toraval, qui vient de co-signer un ouvrage sur certains aspects du confucianisme contemporain, le titre exact est « Le sage et le peuple », le renouveau confucéen en Chine. Donc, Joël Toraval fait la constatation suivante. Je cite, on peut voir dans cette continuité entre justement l'éthique individuelle du prince et sa traduction politique, l'expression d'une certaine utopie propre au confucianisme, où un seul et même principe, dont le fondement ultime est cosmique, gouverne à la fois les comportements individuels et collectifs. C'est cette continuité que vient interrompre la modernité. Désormais, sagesse intérieure, c'est-à-dire nation, et royauté extérieure, Wai Wang, sont disjointes. Elles obéissent à des règles qui sont hétérogènes. Le problème du passage de l'une à l'autre se pose donc en termes nouveaux. Fin de la citation. Alors, cette disjonction entre la royauté extérieure, qui à l'ère moderne est remplacée par le gouvernement d'un État-nation de type européen ou, si vous voulez, occidental, donc, cette disjonction entre la royauté extérieure et la sagesse intérieure, qui est désormais confinée, en quelque sorte, à la vie individuelle privée, cette disjonction est donc le signe le plus manifeste de la rupture introduite par la modernité. Et c'est une question qui se trouve abordée dans plusieurs articles de la dernière partie de notre volume sur la grande étude dont j'ai déjà parlé et dont la dernière partie justement est consacrée aux aspects modernes et contemporains des interprétations et des lectures de ce texte important qu'est la grande étude. Alors la question plus générale de la tension que l'on peut parfois qualifier d'extrême entre d'une part la continuité ou la volonté de continuité des fondements de la culture confucéenne et d'autre part la rupture, pour ne pas dire la démolition et la destruction systématique de cette continuité appelée par les exigences de la modernisation. Cette question donc est, comme vous le concevrez aisément, est d'une grande complexité et a déjà une longue histoire, au moins longue d'un siècle. Elle nécessitera donc que nous y revenions ultérieurement. Pour l'heure, j'aimerais donc revenir à ce fondement ultime que Joël Toraval qualifiait de cosmique, qui me paraît donc tout à fait fondateur. Et pour cela, je reviendrai donc un instant à cette citation de Tu Weiming, donc ce chantre donc de la nouvelle foi confucéenne à l'heure actuelle, et qui illustre, à mon sens, parfaitement la volonté de continuité culturelle affirmée par certains prophètes du confucianisme contemporain tels que justement Tu Weiming. Alors cette citation reprenait, si vous vous en souvenez, les différents stades par lesquels passe le développement continu de la personne morale du prince en cercle concentrique de plus en plus large. Donc on part du shen, donc du soi, ensuite on passe par la famille, par la communauté, par l'État ou le pays, et ensuite on arrive donc à l'échelle du monde. Et la citation concluait sur le caractère englobant ou tout inclusif de l'humanisme confucéen, selon Tu Weiming. Alors je cite, en traduction française, « À la lumière de l'humanisme inclusif confucéen, le soi transformé transcende au plan personnel comme au plan collectif, au plan communautaire, l'égoïsme, le népotisme, l'esprit de clocher, en anglais donc le parochialism, l'ethnocentrisme et l'anthropocentrisme, pour ne faire plus qu'un seul corps avec le ciel, la terre et les 10 000 êtres. » Alors, nous avions ici, donc, comme je l'indiquais, une allusion à la formule du grand penseur d'époque Ming, qui a vécu au 15e, 16e siècle, j'ai nommé donc Wang Yangming, dans un texte qui porte justement sur la grande étude et qui s'intitule le Ta Xue Wen, c'est-à-dire donc les questions sur la grande étude. Et cette phrase de Wang Yangming dit ceci: Ta ren zhe, yi tian di wan wu wei yi ti zhe ye. Qi shi tian xia you yi jia, zhong guo you yi ren yan. Donc le grand homme est celui qui conçoit le tian di, c'est-à-dire le ciel-terre, et les wan wu, les 10 000 êtres, comme yi ti, un seul corps. Et il considère donc le monde comme une seule famille, et Zhongguo, c'est-à-dire donc le pays du milieu, ou ce qu'on appelle maintenant l'empire du milieu, comme un seul homme. Et cette phrase de Wang Yangming, nous l'avions vu, fait elle-même référence à cette autre phrase du traité des rites, du Li Qi, au chapitre Li Yun, c'est-à-dire l'évolution des rites. Gu sheng ren nai yi tian xia wei yi jia, yi zhong guo wei yi ren zhe. Donc ainsi donc, le sage peut envisager de considérer le monde comme une seule famille, et zhong guo, alors on peut le comprendre comme le pays du milieu, mais dans un contexte plus ancien, comme les pays centraux. Donc, le pays du milieu ou les pays centraux comme un seul homme. Alors, cette citation du traité des rites me paraît intéressante parce qu'elle fait apparaître dans la même phrase et dans un parallélisme qui introduit une analogie. Donc, dans la même phrase, vous avez la notion de tianxia, c'est-à-dire donc du tout sous le ciel, et la notion de zhongguo, c'est-à-dire donc pays centraux ou pays du milieu. C'est-à-dire que cette phrase associe l'idée d'universalité et l'idée de centralité. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter maintenant un instant, parce que ça me paraît vraiment important. Alors, cette association entre universalité et centralité se trouve développée dans un ouvrage extrêmement intéressant de l'historien Xin Yitian, ouvrage extrêmement intéressant, mais malheureusement pour ceux qui ne lisent pas le chinois, il est en chinois. Donc, le titre principal, c'est Tianxia Yijia, c'est-à-dire donc le monde ou le tout sous le ciel est une seule famille, qui est donc une allusion assez claire donc à cette citation du traité des rites. Alors l'ouvrage de Monsieur Xin Yitian donc porte sur la relation donc entre Huangdi, Guanliao et Shehui, c'est-à-dire donc le système impérial, le système bureaucratique et la société. Alors, D'après cet ouvrage extrêmement érudit et documenté, donc de Xin Yitian, les inscriptions oraculaires, c'est-à-dire donc les inscriptions divinatoires d'époque Shang, c'est-à-dire là, ça nous fait remonter donc au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Donc, ces inscriptions oraculaires attestent déjà une structuration spatiale, donc en quatre orients ou quatre directions, c'est-à-dire donc en chinois en sifang. Donc en général avec un centre qui fait que quelquefois on parle aussi de wufang, c'est-à-dire donc cinq orientations. Donc vous avez les quatre orients et le centre. Et selon M. Xin Yitian, donc les Shang s'assignent volontiers un territoire appelé donc Zhongfang, c'est-à-dire donc le territoire ou l'orientation du milieu situé donc au centre du monde connu d'alors. Alors, dans ce que je me propose de développer maintenant, il va falloir garder à l'idée que ce terme de Fang a comment dire, des significations à la fois très différentes mais connexes. Fang, bien sûr, dans la langue moderne, on l'entend très souvent comme signifiant donc le carré. Mais l'une des significations donc plus originelles, c'est donc, comme je viens de l'indiquer, donc l'Orient au sens des quatre Orients ou la direction. Donc c'est pour ça que on parle des sefang, donc les quatre Orients ou les quatre directions. Et également dans la langue moderne, fang indique plus généralement toute localisation ou un espace. Dans la langue moderne, on parle de tifang, shenme tifang, où ça se passe, donc dans quel endroit, etc. Et cette expression moderne, tifang, est elle-même donc un rappel de ce que nous allons développer maintenant, c'est-à-dire donc l'association donc de la notion d'espace ou de carré avec la terre, avec ti. Alors, toujours selon Xin Yitian, donc, ce dispositif spatial, donc ordonné en quatre orients, se retrouve dans la disposition des tombes des rois Shang, dans la forme de ce caractère qui est le caractère ya ici, hein, qui entre pour des raisons purement phonétiques dans le terme yazhou, yazhou qui est l'Asie. Hein. Bon, ici en fait c'est vraiment la graphie donc en carré qui nous intéresse ici. Et Xin Yitian donc parle de ces tombes d'époque Shang qui sont disposées dans cette forme du caractère ya, donc avec quatre voies qui partent vers les quatre orients et qui convergent donc au centre. Alors, selon Xin Yitian, donc cette spatialisation en forme de ya, c'est-à-dire ce carré formé de quatre directions plus un centre, serait constitutive tout simplement de la conception antique du tianxia, c'est-à-dire donc du monde sous le ciel. Et vous en avez ici donc éventuellement une preuve que Xin Yitian donc amène à l'appui de son argument. Vous avez donc ici des inscriptions d'époque Shang où vous retrouvez donc ce graphème donc de ce caractère ya dont nous parlions tout à l'heure. Donc, d'après Xin Yitian, il y aurait donc deux significations du tianxia, c'est-à-dire donc ce qui est sous le ciel. L'une qui désigne largement donc justement tout ce qui est sous le ciel, c'est-à-dire ce qui est éclairé par la lumière du soleil et de la lune et qui est habité par l'humain, hein, par le monde humain. Autrement dit, c'est cela d'ailleurs en fait qui a amené certains spécialistes à employer la notion de d'écumène, dérivée du grec oikoumene, donc pour traduire tianxia. Et l'autre signification désignerait plus spécifiquement donc les zhongguo, c'est-à-dire donc les pays du centre à l'intérieur des quatre orients, hein, c'est-à-dire donc des sifangzhenei, ou selon une expression un peu plus tardive, les sihaizhenei, c'est-à-dire à l'intérieur des quatre mers. Je vous rappellerai que nous avons eu l'occasion de parler à propos justement de règles rituelles d'un groupe d'excentriques qu'on a appelé donc les sept sages du bosquet des bambous, les Zhulin Qixian, de l'époque post-Han, donc nous sommes au 3e, 4e siècle de l'ère chrétienne, donc ces excentriques qui sont considérés comme des fan wei zhi shi, hein, c'est-à-dire donc des gentilshommes qui se situent à l'extérieur, hein, du fan, c'est-à-dire à l'extérieur de cet espace civilisé et ritualisé qu'est donc le monde chinois dans sa propre définition. Alors, au cours de fouilles archéologiques qui ont été menées dans les années 1950 sur le site de l'ancienne Chang'an, près de l'actuelle Xi'an, Xi'an qui est connue donc pour justement cette tombe du premier empereur, donc ancienne capitale impériale. Donc, au cours de ces fouilles, on a retrouvé les vestiges de constructions également de forme carrée. Et certains spécialistes ont supposé qu'il pouvait s'agir d'édifices rituels comme le temple ancestral, hein, donc le Zhongmiao dont nous avons un peu parlé, ou bien un édifice sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant, qu'on appelle le Mingtang. Mingtang, si on veut le traduire littéralement, ce serait donc le palais de la lumière ou le palais des lumières. Alors, inutile d'essayer de vous représenter donc une sorte de chinoiserie toute illuminée, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Le Mingtang est intéressant pour notre propos parce que on pourrait dire que c'est un édifice cosmologique par excellence sur lequel un de mes maîtres en sinologie, Léon van der Mersch, s'est penché dans son grand ouvrage qui s'intitule Wang Tao ou La Voie royale, recherche sur l'esprit des institutions de la Chine archaïque, dont le deuxième volume est paru donc en 1980 à l'École française d'Extrême-Orient. Alors, Léon van der Mersch donc s'est intéressé donc notamment à cet édifice dans le contexte de ses études sur le ritualisme de la Chine archaïque et de la Chine antique. Alors, Léon van der Mersch nous rappelle que les Zhou, c'est-à-dire donc cette dynastie qui a succédé aux Shang à partir donc en gros de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, donc et qui a duré donc officiellement en fait jusque à l'instauration du premier empire centralisé en 221 avant l'ère chrétienne, donc cette dynastie des Zhou rendait au ciel un culte au sud de leur capitale ancestrale. Donc c'est en fait ce qu'on appelle donc la banlieue sud. Alors la banlieue sud, c'est pas Ivry, hein, c'est ici nous sommes au sud de la capitale ancestrale. Et le sud, en fait, est le centre cosmique de l'univers, alors que la capitale est considérée comme le centre humain ou le centre donc du monde sociopolitique. Donc vous avez toujours en fait cette idée que le monde humain en fait est à resituer au fond dans un contexte cosmique. Et donc Léon Vandermeersch parle donc du sacrifice au ciel où la victime était offerte sur un monticule rond, hein, qu'on appelle en chinois un huanqiu, dont la forme correspondait à celle du ciel. Donc la forme du ciel par excellence, c'est le cercle, c'est le rond. Et ce culte du ciel devait ensuite distinguer dans le ciel plusieurs secteurs selon la théorie des cinq phases, ou qu'on appelle aussi la théorie des cinq éléments, les Wuxing, élaborée sous les royaumes combattants. Donc vous aviez donc le secteur est, qui était dominé par l'élément du bois et la couleur verte, le sud par l'élément feu et la couleur rouge, l'ouest par l'élément métal et la couleur blanche, le nord par l'élément eau, l'eau, et la couleur noire, et enfin donc le centre par l'élément terre et la couleur jaune. Alors, pour faire pendant à ce culte du ciel, un culte était rendu également à la terre, donc entité cosmique symétrique du ciel. Et le grand sacrifice à la terre avait lieu donc au solstice d'été dans la banlieue nord. Alors la banlieue nord, encore une fois, c'est pas le 9-3, donc c'est cet espace en dehors de la capitale, donc au nord, par symétrie par rapport justement à ce culte du ciel rendu au sud. Donc le culte de la terre a lieu au nord sur un tertre érigé au milieu d'un plan d'eau et de forme carrée. En effet, autant le ciel est rond, circulaire, autant la terre est perçue comme carrée, et avec elle donc tout l'espace humain qu'elle porte. Donc vous avez en reconstitution donc une reconstitution évidemment tout à fait imaginaire, hein, donc cette idée donc d'un carré donc à l'intérieur d'un cercle que vous retrouvez encore à Pékin aujourd'hui avec la structure, l'architecture du Temple du Ciel. Alors, il faut rappeler donc qu'en Chine, donc, l'espace est en effet conçu essentiellement, enfin de façon paradigmatique, en termes de carré. Par exemple, donc, l'espace rural est conçu à l'origine donc sur le modèle du carré, puisque le mot qui signifie champ en chinois moderne tian, c'est donc un carré qui est lui-même découpé en quatre sous-carrés, si j'ose dire, en quatre petits carrés donc découpés en damiers. Et d'après une représentation tout à fait idéalisée de la façon dont les champs était géré en quelque sorte dans l'Antiquité, une représentation que vous trouvez dans le Mengzi, dans le Mencius, la structure rurale sous l'Antiquité Zhou aurait été justement celle de ces champs en damier, hein, qu'on appelle en chinois Jing Tian. Alors Jing Tian, ça veut dire donc Jing, c'est le puits. Mais encore une fois, ici, ça n'est pas le sens du caractère qui importe, c'est son aspect graphique. Ici, Jing, en fait, délimite neuf carrés autour d'un centre. Donc, ces champs en damier donc, étaient censés représenter donc, la structure rurale de l'Antiquité, avec donc les paysans cultivant donc les carrés extérieurs pour eux-mêmes et cultivant donc le carré central pour le prince. Donc c'est là que vous avez une élaboration justement de la distinction entre le s, c'est-à-dire donc ce qu'on fait pour soi, et le con, c'est-à-dire ce qu'on fait pour le con qui peut être le prince d'ailleurs, ce qu'on fait pour donc quelque chose de commun. Je vous rappellerai aussi, pour ceux d'entre vous qui êtes allés en Chine et notamment à Pékin, que les habitations traditionnelles chinoises s'organisent assez volontiers en carré, c'est-à-dire donc des bâtiments autour d'une cour centrale. On en trouve encore des traces, enfin de moins en moins, dans les fameux Shiruyuan, donc du nord de la Chine, notamment à Pékin, où on en a quand même pas mal détruit. Et par ailleurs, dans chaque maison, les tablettes des ancêtres sont également disposées en carré. Elles représentent les ancêtres appartenant donc aux quatre générations précédant immédiatement celle du chef actuel du clan. Et je rappellerai également que les villes de l'Antiquité ou de la Chine impériale ont également un tracé en damier. C'est le plan de l'ancienne capitale impériale des Han et des Tang, donc Chang'an, dont nous avons parlé à l'instant, l'actuel Xi'an, qui rappelle tout à fait celui de l'actuel Manhattan, donc à New York. Donc, comment dire, un plan en quadrillage. Et le dernier exemple, c'est le caractère qui désigne le pays. C'est un carré qui délimite ce territoire, cet espace carré, et qui inclut donc le symbole de la puissance militaire, c'est-à-dire la hallebarde que vous retrouvez à l'intérieur donc de ce carré. Donc le pays, au fond, dans l'Antiquité chinoise, c'est donc un espace qu'on se représente de manière paradigmatiquement carrée et qui détient donc une puissance militaire. Alors, je pense avoir assez montré que le carré est la représentation spatiale par excellence de toute organisation humaine et politique. Et c'est ce que rappelle donc Marcel Granet, donc dont nous avons assez souvent parlé. Marcel Granet, dont je rappelle les dates, 1884-1940, qui, dans une communication tout à fait intéressante sur la droite et la gauche en Chine, une communication faite en 1933, rappelle que, je cite, « le monde, pour sa structure, ne diffère pas du char ou de la maison du chef. Il se compose d'un toit qui est rond, c'est le ciel, et d'une base carrée qui est la terre. » En effet, donc si vous justement à Xi'an, au musée de Xi'an, vous verrez donc des chars d'époque Qin et Han qui comportent donc une caisse où se tient donc le conducteur du char, une caisse carrée surmontée donc d'une sorte de parasol, de toit rond. Et de la même façon, donc la maison d'un chef, d'un prince, un palais, etc., est construit donc sur le même modèle. Je continue la citation de Granet. Entre le ciel et la terre, il y a les reliant une ou plusieurs colonnes. La colonne unique représente le chef lui-même. Là, ça nous renvoie justement à cette interprétation de la graphie du caractère Wang, donc trois traits horizontaux, donc le ciel, la terre et au milieu l'homme, et traversé en leur centre d'un trait vertical, donc qui serait donc justement l'axis mundi, qui est le roi lui-même. Quand il y a plusieurs colonnes, continue Granet, quatre le plus souvent, elles représentent les ministres, colonne maîtresse de l'État, ou bien les montagnes situées aux quatre coins de l'espace. Fin de citation. Donc ici, Granet rappelle donc cette structuration cosmologique de l'espace politique. Nous avons ces deux espaces, donc le ciel qui est rond, et je rappelle qu'il est rond parce que il symbolise le cycle naturel de la succession des saisons et de la course des astres dans l'espace céleste, et donc le carré forme extrêmement stable par définition qui représente la Terre. Et ces deux espaces, bien que non homogènes, n'en font qu'un puisqu'ils se répondent, puisqu'ils correspondent en un réseau de relations infiniment multiples et variées. Vous avez des correspondances de secteurs, des correspondances d'orient, de couleurs, etc. Et entre eux, le rôle axial et médiateur est joué donc par le fils du ciel, donc le Tianzi, puisqu'il est à la fois apparenté au ciel, qui est son ancêtre, et souverain des hommes. Et c'est lui qui garantit précisément la correspondance harmonieuse entre l'homme et les deux autres puissances cosmiques que sont le ciel et la terre. Et l'homme, en fait, participe justement de ce mouvement cosmique en reproduisant physiquement leur mouvement et leur rythme. Alors, ce rôle médiateur du Fils du Ciel, en tant que représentant de l'ordre humain, apparaît très clairement justement dans cette institution du Mingtang. Alors, le Mingtang, c'est cet édifice d'où est censé irradier donc la lumière, cette fameuse lumière rayonnante de la vertu du souverain ou du prince, qui est donc la première phrase du texte de la Grande Étude. Donc la voix de la Grande Étude est justement dans le rayonnement de cette lumière ou de cette aura lumineuse du souverain. Et donc ce Mingtang est devenu, sous les Zhou, le symbole même de la royauté chinoise, royauté comprise comme primordialement rituelle et cosmologique. Alors, le plan de ce Mingtang était, et là je cite Léon van der Mersch, était purement cosmologique. Le palais était édifié donc à l'extérieur de l'enceinte de la capitale, comme on a dit dans la banlieue sud, que le tertre rond du grand sacrifice solstitial au ciel marquait comme pôle cosmique. Sa toiture de chaume était ronde comme la voûte céleste, tandis que le corps de l'édifice était carré comme la terre. Il se composait de quatre parties, orientées à l'est, au sud, à l'ouest et au nord, autour d'un hall central. Alors, vous avez une tentative de reconstitution du plan intérieur, donc des salles de ce palais. Donc, vous avez un carré central et autour donc d'autres carrés qui se distribuent de manière parfaitement symétrique autour de ce carré central. Alors, je continue la citation de Léon van der Mersch. Chacune des parties comprenait une grande salle médiane, flanquée à gauche et à droite de deux salles adjacentes plus petites, ces trois salles de façade étant doublées par derrière encore de trois pièces intérieures. Les quatre côtés et le centre correspondaient aux cinq points cardinaux et aux cinq divisions de l'année. Les trois salles de chaque façade correspondaient aux trois mois de chaque saison. Et c'est donc dans cet édifice que le roi proclamait la nouvelle lune devant ses vassaux, qui à leur tour donc la proclamaient chacun dans son grand temple ancestral. Et c'est la raison pour laquelle le Mingtang est également appelé maison du calendrier, notamment par Granet, puisque le roi prenait rituellement place pour toute la durée d'une lunaison dans la salle correspondante du Mingtang. Et ensuite, le roi se conformait au cycle des saisons en faisant donc le tour des quatre orients. Donc il siégeait tour à tour dans les salles correspondantes. Et donc nous avons, si on peut dire, une circumambulation, donc une circulation autour des salles du souverain selon donc les saisons. Et cette circumambulation dans le Mingtang était doublée par une circulation plus large, dans la mesure où chaque année, le fils du ciel, donc le Tianzi, recevait tour à tour la visite des vassaux des quatre orients. Donc là, vous avez un mouvement centripète, un mouvement de convergence vers le centre. Et la cinquième année, c'est lui, donc le fils du ciel, qui parcourait les fiefs des quatre orients en suivant le cours des saisons et en faisant station donc à l'est à l'équinoxe de printemps, au sud au solstice d'été, à l'ouest à l'équinoxe d'automne et au nord au solstice d'hiver. Autrement dit, donc, nous avons cette circulation rituelle et cosmologique, pas simplement dans l'espace et dans le temps, mais on peut dire que l'espace-temps se déploie à mesure que le souverain se déplace. Donc, au fond, c'est le souverain qui, par sa circumambulation, donc, crée, au fond, l'espace et le temps. Alors, le temps, il m'en manque maintenant. Je dois conclure assez rapidement. Donc, au fond, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est que le Tianxia, tout ce qui est sous le ciel, est une forme de spatialisation qui frappe d'abord par son caractère extrêmement stable, puisqu'il est, fondé sur la forme carrée et fortement centré. Ce carré est toujours donc conçu autour d'un centre. Et c'est précisément cette universalité à la chinoise fortement stable et centrée qu'il s'agira donc de voir mise à l'épreuve par notamment donc le contact du monde chinois avec ses voisins immédiats que sont donc l'Inde et le Japon.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain avec John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institution et Société de la Romantique. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.